Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une envie, changer quelque chose dans son apparence, c'est de cela dont nous avions parlé au cours de l'émission diffusée le 9 janvier dernier, émission que nous vous proposons maintenant de réécouter. Modifier l'aspect de sa chevelure, l'allure de ses mains, le teint de sa peau, inscrire une phrase sur son dos, un dessin sur son épaule, des gestes plus ou moins définitifs, qui se veulent décoratifs et qui, en fonction des produits employés, de la formation de celles et de ceux qui les exécutent et des conditions dans lesquelles ils sont réalisés, peuvent parfois se révéler dangereux. Tatouage, lissage, bronzage, dépigmentation, les soins esthétiques font l'objet de réglementations plus ou moins strictes, plus ou moins suivies. Certains de ces soins ou de ces pratiques suscitent un engouement spectaculaire, comme le phénomène des tatouages en Europe ou en Amérique du Nord, et le développement assez phénoménal des ongleries dans les rues de certaines grandes villes. Des modes qui poussent, face à certaines dérives, les pouvoirs publics à légiférer, à prévenir et dans certains cas à sévir. Les dangers des soins esthétiques et décorations corporelles, on en parle avec le professeur Gérard Guillet, dermatologue et allergologue. On vous retrouve en direct de Bordeaux, où vous exercez, des studios de nos confrères de France Bleu Gironde, que l'on remercie, le professeur Gérard Guillet, qui a signé « L'âme à fleur de peau et les pouvoirs de la peau » aux éditions Albin Michel. Nous retrouverons aussi tout à l'heure Christophe Roussel, toxicologue, chef de l'unité de l'évaluation des substances chimiques à l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, qui a publié il y a quelques mois de cela une étude sanitaire des professionnels exerçant des activités de soins et de décoration de l'ongle. En deuxième partie de Priorité Santé, nous serons en ligne avec le Cameroun, avec le docteur Emmanuel Armand Kouotou, médecin dermatologue, vénérologue et allergologue à l'hôpital de Yaoundé. Pour conclure notre émission, nous retrouverons tout à l'heure la chronique nutrition avec Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali, qui nous parlera tout à l'heure de l'hydratation.
Priorité Santé sur RFI.
Une légère sensation de picotement peut intervenir. Si la gêne persiste, vous épongez et vous appliquez rapidement la crème anti-rougeur Sérénité en couche épaisse. Bon, alors, pourquoi cet aquapeeling à base d'enzymes en décembre, janvier, février? La peau vient d'entrer dans l'hiver, elle est engourdie, les cellules mortes se sont amassées comme une fine moisissure sur la surface de la peau. La pollution a graissé les cheveux, bouché les pores. Bref, le visage est asphyxié, le teint déprimé et la cliente se sent vieillir. Avec ce peeling, on va décaper. On va redonner à la peau un peu de sa mémoire. On va lui donner un deuxième souffle. Vous avez compris?
Oui.
N'oubliez pas de leur dire d'arrêter de fumer et donnez-leur en complément pour le soir chez elles le soin complet formule confort d'Electel. Prix 459 francs.
Petit extrait du film Vénus Beauté réalisé en 1999 par Tony Marshall, où l'on voit donc la patronne de l'Institut d'esthétique vanter à ses employés les nouveaux soins à vendre aux clientes malgré quelques petits désagréments. Alors pas question dans cette émission de faire peur ou de faire un amalgame entre professionnels rigoureux et charlatans de l'esthétique, mais bien d'informer en distinguant les différents types de soins, de gestes, les produits très divers et les différentes pratiques. Professeur Gérard Guillet, on va d'abord parler de cette pratique qui concernerait en France près d'une personne sur 5, hein, âgée de 25 à 35 ans. Il s'agit du tatouage. Alors, est-ce que dans vos consultations, les personnes qui viennent suite à un tatouage sont nombreuses aujourd'hui et déjà plus nombreuses qu'auparavant, que ces dernières années?
Certainement. Autrefois, les premiers tatouages pour lesquels on m'a demandé d'intervenir étaient des tatouages asociaux. À présent que le tatouage est rentré dans les mœurs, dans les habitudes esthétiques, la demande est c'est radicalement différencié, puisque bien sûr il y a toujours des regrets de tatouage, des tatouages dont on regrette d'avoir choisi tel ou tel motif, et puis il y en a d'autres, et c'est assez fréquent finalement, pour lequel apparaît une réaction inflammatoire. C'est
un tatouage. Professeur Gérardier, juste cette précision, quand vous dites tatouages asociaux, c'est qu'avant ils étaient réservés à certaines catégories de la population, hein. On pense bien sûr aux détenus, aux ex-détenus, ou bien aux marins, c'était deux catégorie particulièrement tatouée, on va dire.
Oui, disons, pas seulement maintenant, avoir un tatouage, et c'est affirmer une certaine valeur de vie, c'est finalement la réappropriation du corps, par référence à l'époque où toutes les lois religieuses interdisaient de contrefaire l'œuvre de Dieu. Donc, tout est là. À partir du moment où la société s'est déspiritualisée, chacun est revenu vers lui-même, s'est réapproprié son corps et a voulu se donner plus de valeur par des dessins, qui étaient des marques interdites par la Bible, pour tout dire.
Et les personnes qui viennent vous voir suite à ces tatouages, ce sont essentiellement des personnes qui ont des effets indésirables ou simplement qui ne désirent plus être tatouées?
Il y a les deux, mais de moins en moins la première situation, qui était celle par exemple des gens qui voulaient rentrer dans la police et pour lesquels il était mal vu d'avoir des tatouages visibles sur les parties découvertes du corps. Donc ça, c'est devenu assez dérisoire comme demande. En revanche, les demandes concernent surtout les tatouages boursouflés qui deviennent ce qu'on appelle maintenant granulomateux, c'est-à-dire qui démangent, qui prennent du relief et qui dégradent la qualité de vie par leur inconfort. Et c'est surtout avec les pigments rouges d'ailleurs.
Alors justement, ce tatouage, c'est une injection d'encre sous la peau. Précisément, professeur Guillet, dans quelle section, à quelle profondeur l'encre est-elle injectée ?
Ben, finalement, dès lors qu'on a passé la barrière épidermique, on arrive au niveau des couches lymphatiques, du niveau dermique où existent des vaisseaux lymphatiques. Et finalement, tout est fonction de l'habileté du tatoueur. Il ne s'agit pas de tatouer de façon trop superficielle ni trop profonde, autrement apparaît une espèce de floutage de diffusion, et quel que soit de toute façon le niveau où on injecte le pigment, il faut bien se dire que 15 jours plus tard, un tiers du pigment a déjà filé très profondément dans les ganglions.
Alors justement, vous parliez à l'instant de la qualité des encres, en particulier de ce pigment rouge. Que contiennent ces produits qui sont injectés pour former le motif sous-cutané ?
On tombe un peu dans le secret de composition. Souvent, la question a été pour moi de savoir quel était le pigment en cause, la question étant de débusquer une allergie de façon à ne pas réinjecter un pigment qui contiendrait les mêmes substances. Or, le nombre des pigments est très nombreux. On arrive à avoir, avec une seule injection de pigments, il y a les colorants, le colorant lui-même ou les colorants, souvent ils sont associés, il y a des additifs, il y a des impuretés, parce qu'il faut bien savoir que tous ces pigments, on n'est pas dans le domaine de la cosmétique, ce sont des produits qui, basiquement, étaient destinés à l'industrie. Ce sont les mêmes qu'on trouve en carrosserie, en peinture de bateau. Vous voyez, c'est très large. On n'est pas dans la sécurité, et ça suppose un regard toxicologique. Ça suppose surtout pour le tatoueur de ne pas se fournir n'importe où et de s'assurer qu'il y a un bon traçage de l'encre qu'il a utilisée.
Parce que certaines substances sont carrément interdites dans la composition de ce genre de produit, professeur Guillet.
Bien entendu, les hydrocarbures sont par définition interdits par risque cancérigène. Et puis, sur le principe des allergies, on sait très bien que le chrome, le cobalt sont des produits qui sont très allergisants. Ça fait partie des batteries standards d'exploration allergique du tout venant. Le mercure aussi. Le mercure, c'est le cinabe, sulfure de mercure. Cinabe, c'est le colorant rouge qui, c'est le même produit qui est présent d'ailleurs dans certains vaccins comme préservatif. Mais difficile de savoir quelle est la composition exacte du pigment qu'on a injecté. Souvent, le tatoueur ne le sait pas lui-même.
Donc, des métaux qui peuvent se révéler toxiques. Précisément, quel genre d'atteinte cutanée, pour quel genre d'atteinte, justement, vos patients viennent-ils vous consulter, des démangeaisons, des boursouflures ?
L'un est souvent lié à l'autre. La principale complication est un tatouage qui commence à démanger, qui commence à se surélever, à faire une espèce de moutonnement cutané. Et là, on sait qu'on est déjà au stade de ce qu'on appelle en médecine granulome, mais qui correspond finalement à une réaction à corps étranger. C'est la même chose finalement qui se passerait si vous marchiez sur des oursins. Ça va déclencher une réaction inflammatoire tout autour. Et le problème, c'est que les piqûres d'oursins, les morceaux d'oursins vont s'éliminer, tandis que le pigment, il est si fin que finalement, il va rester sous la peau et vous aurez un inconfort et boursouflement à vie. Donc c'est là qu'on vous demande d'intervenir et ce n'est pas toujours aussi facile.
Professeur Gérard Guillet, si vous le voulez bien, on va prendre un auditeur en ligne. Cet auditeur, c'est Cyril. Il nous appelle de l'île de Mayotte, de la ville de Mamoudzou. Bonjour Cyril.
Bonjour Corinne et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
On vous écoute Cyril pour votre témoignage.
Eh bien, je disais que moi, j'ai mis un tatouage il y a 8 ans sur ma main gauche et sur ma main droite. Et puis, j'avais utilisé l'encre de Chine. Et comme nous, on n'a pas des appareils électroniques ou bien mécaniques pour faire ce genre de tatouage, on l'a fait avec l'aiguille qu'on utilise pour coudre, quoi. Alors, plus tard, j'ai commencé à avoir des démangeaisons ou bien ça chatouillait, surtout quand j'étais en contact de la chaleur ou bien j'ai transpiré. Et aussi, quand je suis en contact avec l'eau salée de la mer, ça faisait un peu mal et ça vous donnait envie de vous gratter.
Et ça continue encore aujourd'hui, ces désagréments?
Oui, ça continue parce que Mayotte, c'est une île très chaude. Alors, vous transpirez chaque fois et puis quand vous transpirez, ça fait mal et puis vous avez envie de vous gratter.
Professeur Gérard Guillet, des démangeaisons 8 ans après un tatouage, on l'a entendu avec Cyril, tatouage effectué de façon, on peut le dire, assez rudimentaire, hein, aiguille de couture, encre de Chine. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller, lui dire par rapport à ces démangeaisons qui se poursuivent?
Alors, sur le principe que le tatouage soit fait de façon traditionnelle, comme c'est le cas ici, ou qu'il soit fait de façon plus homogène avec une machine, je ne pense pas, dans son cas, qu'il s'agisse d'une réaction proprement allergique. En revanche, c'est un effet secondaire qui est assez connu. Ce sont des transformations du produit aux ultraviolets ou à la chaleur, mais surtout aux ultraviolets, qui fait qu'apparaissent des démangeaisons au soleil ou à la chaleur. C'est un effet classique avec certains produits comme le cadmium. On peut toujours penser que les ultraviolets modifient ou dégradent le pigment qui a été injecté. Voilà pourquoi il aura des démangeaisons. Et que peut-on faire? Malheureusement, pas grand-chose. Il faudrait arriver à éliminer le pigment. On est encore sur la question du laser. Encore, ce ne soit pas facile sur peau noire. Je dirais que le plus simple, c'est traiter les symptômes avec la cortisone locale sans abuser, ponctuellement quand il y en a besoin. Mais sinon, la technique d'extraction du pigment va être chez lui beaucoup trop compliquée.
Est-ce qu'en se protégeant les mains des rayons solaires, par exemple, cela peut atténuer les démangeaisons?
Je pense que ça vaut la peine. Je pense que c'est un test à faire, bien entendu. Un écran anti-solaire de bon coefficient, 50+, quand on va au soleil. C'est ce que je recommande aux personnes à peau blanche qui se plaignent de ces sensations quand ils vont au soleil. Oui, certainement.
Voilà, Cyril, pour la réponse du professeur Gérard Guillet. Tentez tant que faire se peut, hein, de protéger ces tatouages de l'exposition solaire. Peut-être juste pour conclure sur ce sujet du tatouage, il y a des gestes particuliers, professeur Gérard Guillet, des gestes d'entretien à suivre une fois que l'on s'est fait tatouer immédiatement après?
Immédiatement après, c'est la même histoire que les gens qui se font percer. Pour les piercings, éviter la surinfection, c'est-à-dire avoir une hygiène convenable sur le produit pour éviter de faire rentrer des microbes. Sinon, il n'y a pas de règle particulière. Et ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est qu'on peut fort bien supporter son tatouage pendant 10, 15, 20 ans et une allergie peut toujours survenir plus tard. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais vous racontez l'histoire d'un homme qui a choisi de se faire tatouer une rose rouge sur sur le thorax. Il avait sur la jambe et sur le bras un puma avec des yeux rouges, un serpent avec des yeux rouges. Bien, à la suite du tatouage de rose rouge sur le thorax, s'est déclenchée une inflammation sur tous les tatouages rouges antérieurs et son puma comme son serpent en ont perdu la vue, ils en ont perdu les yeux. Il a fallu enlever aussi la rose rouge.
Effet spectaculaire, on l'imagine. On va vous retrouver, professeur Gérard Guillet, mais on va parler d'un autre type de décoration, manucure, onglerie, barre à ongles, et là aussi, de potentielles mauvaises surprises. Christophe Roussel, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous travaillez à l'ANSES, où vous êtes chef de l'unité de l'évaluation des substances chimiques. L'ANSES qui vient de conduire une étude auprès des professionnels des soins de l'ongle sur les risques d'exposition. Alors justement, quels sont ces principaux risques pour cette activité de pose de faux ongles?
Ben en fait, on a conduit effectivement ces travaux qui ont été publiés récemment suite à l'identification de substances qui sont dangereuses et qu'on a identifiées dans des produits de soins et de décoration de l'ongle. Donc ça nous a motivés pour essayer de mieux connaître les expositions des professionnels du soin et de la décoration de l'ongle. Donc on a conduit des travaux à la fois en recensant les pathologies qui sont observées chez ces professionnels. C'est majoritairement, voire quasi exclusivement, des femmes qui sont qui mènent ce type d'activité. Donc on a recensé des problèmes cutanés, des problèmes respiratoires, des céphalées qui sont rapportés chez ces populations. Et on a pu relier, pour certaines de ces pathologies, une cause possible liée à une exposition à de nombreuses substances chimiques, puisque les activités de soins et de décoration de l'ongle conduisent à mettre en œuvre des produits, des dissolvants, des résines, des polymères qui servent à former mouler l'ongle, à former des gels pour remplacer la surface de l'ongle. Et donc tous ces produits contiennent des substances qui sont potentiellement dangereuses. On a identifié près de 700 substances qui sont présentes dans la composition de ces produits. On a fait des mesures chez un certain nombre de professionnels dans le nord de la France, en Île-de-France. On a pu retrouver dans certains instituts des concentrations, alors pas forcément très élevées, mais de multiples substances chimiques. Donc la polyexposition, le mélange auquel sont exposées ces populations peuvent laisser penser à des risques pour leur santé. Donc il y a effectivement eu un certain nombre de constatations qui ont été faites et qui nous ont amenés à faire des recommandations pour essayer de limiter les expositions de ces populations.
Justement, des recommandations adressées aux employeurs. Est-ce que les professionnels semblent disposés, par exemple, à éliminer certains produits?
Alors, c'est toute une chaîne. Il y a bien sûr, au bout de chaîne, il y a les professionnels, les employés, qui sont pas forcément eux-mêmes les employeurs. Il y a beaucoup de très petites entreprises. Il y a aussi des professionnels qui travaillent de manière indépendante, donc qui achètent leurs produits chez des distributeurs ou sur Internet. Et donc nous, l'une des recommandations fortes s'adresse déjà à ceux qui fabriquent ces produits, qui transmettent, alors d'une part, qui substituent, qui remplacent les substances les plus dangereuses par des substances moins dangereuses, parce que ça fait partie de leur devoir de ne pas exposer leurs clients à des substances dangereuses. Et puis, s'ils ne peuvent pas les substituer, d'informer leurs clients, donc en l'occurrence ici, les professionnels qui vont acheter ces produits pour le soin et la décoration de l'ongle, de les informer sur la composition des produits, les risques éventuels, la meilleure manière d'utiliser les produits. Donc c'est déjà aux responsables de la mise sur le marché de ces produits de faire le maximum pour que l'utilisation des produits se fasse dans de bonnes conditions. Après, effectivement, les employeurs eux-mêmes doivent aussi se renseigner sur sur les produits qu'ils manipulent. Nous, on a fait une enquête qui a rapporté que la moitié de ces professionnels n'étaient pas avertis ou n'étaient pas conscients du risque possible lié à la manipulation de produits chimiques.
Merci beaucoup Christophe Roussel. Je rappelle que vous êtes toxicologue, chef de l'unité d'évaluation des substances chimiques à l'ANSES. On reste ensemble, professeur Gérard Guillet. On va vous retrouver tout à l'heure pour continuer à parler de ces risques liés aux soins esthétiques. On va parler notamment coiffure, défrisage, également dépigmentation, tout de suite après cette pause musicale.
et puis les rustines et la colle. Mais là je m'égare un peu, je n'étais pas une enfant de cœur qu'on arrache aux instants rêveurs d'un naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté.
Professeur Gérard Guillet, après avoir parlé tatouage, pose de faux ongles, on va évoquer d'autres soins prodigués cette fois par des professionnels de la coiffure, avec la question incontournable lorsque l'on parle des peaux noires, eh bien c'est la dépigmentation. Au cœur de notre sujet, il y a bien sûr les produits utilisés. On a parlé des effets des produits pour les faux ongles. C'est également pour vous, dermatologue, allergologue, un motif de consultation.
Oui, c'est un triple motif. D'abord, parce que pour coller des faux ongles, il y a un limage qui est déjà une agression de l'ongle. Ensuite, parce qu'on applique là-dessus des monomères d'acrylique qui sont allergisants, surtout pour celui qui les pose. Et que pour les polymériser, on applique ensuite des UV, des barres à UV. Or, on commence à voir des ennuis. Il y en a eu peu, mais ces UV vont poser, pour lorsque le processus est répété, des risques de cancérisation à terme après de multiples interventions. Et enfin, ce qu'on voit beaucoup en dermatologie, c'est des ongles lamentables par-dessous les faux ongles parce qu'il y a piégeage d'eau et piégeage de microbes. Donc, complication, c'est l'irritation, l'allergie, l'infection.
Avec des mycoses éventuellement ?
Avec des mycoses et un autre germe qu'on appelle pseudomonas, c'est piégé dans l'eau, ça fait des ongles verts avec un effet d'irritation.
Avec un effet effrayant aussi. UV, vous disiez, ces UV lorsque l'on met la main sur ces plaques lumineuses hein, pour faire sécher ou amalgamer les différents produits, ça nous renvoie aussi au salon de bronzage, même si, par exemple en France, il existe une législation assez sévère pour ces établissements. Ce qui a d'ailleurs conduit à la fermeture de nombreux de ces centres de bronzage.
Oui, tout à fait. Je pense que, comme on dit, la trouille est le début de la sagesse, c'est ce qu'on dit en parler vulgaire. À partir du moment où, je prends l'exemple du défrisage, ou les ultraviolets, cabine à UV, à partir du moment où c'est interdit chez l'enfant, c'est un peu la même histoire pour les huiles essentielles, il faut se poser vraiment la question des risques de toutes les techniques invasives ou qui font appel aux produits dont vous avez parlé ou dont on va parler.
Avec justement, on évoque des problèmes de lésions, on évoque des problèmes d'infection, mais à terme, dans toute la littérature en dermato ou autre qui concerne justement ces soins esthétiques, on voit souvent revenir le terme de cancer, cancer cutané ou des problèmes au niveau du système lymphatique. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez nous confirmer ?
Alors, bon, on vit dans la société de la peur, on ne sait pas à long terme ce qui va se passer. En ce qui concerne les cancers, il ne faut pas exagérer la chose, ça suppose une dose cumulée de produits, ça suppose une dose cumulée d'ultraviolet.
Mais peut-être donc pour les personnes, les professionnels du secteur.
C'est probable parce qu'en pratique, moi je n'ai dénombré que 12 cas depuis le temps, 12 cas de cancer, ce qui est quand même très peu de choses.
On va revenir en arrière par rapport à notre sujet. On a parlé tout à l'heure du tatouage. Il existe le maquillage permanent. Finalement, professeur Gérard Guillet, le maquillage permanent, c'est une autre forme de tatouage.
C'est une autre forme de tatouage, mais avec des produits qui sont plus canalisés, si j'ose dire. J'aurai moins de prévention vis-à-vis de ce type de décoration.
Autre décoration cutanée non permanent, ceux-là, ce sont les tatouages au henné. Pas mal d'avertissements à ce sujet, avec particulièrement certains pigments, certaines qualités de henné qui sont pointées du doigt.
Alors, le henné, sur le principe, on ne voit quasiment pas d'ennui avec le henné naturel, le henné et cette poudre verte. En revanche, il y a eu un dérapage marketing avec le henné noir. Le henné noir, bien sûr, il y a du henné, mais il y a surtout la paraphénylendiamine, qui est le colorant classique des vêtements et teintures, extrêmement allergisant. Et ce tatouage au henné noir est strictement interdit en France. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'interdire parce que s'appliquer un colorant directement sur la peau quand on recommande de ne pas le faire quand il s'agit de teinture capillaire en respectant le cuir chevelu, bah c'est évident qu'il faut éviter le henné noir. Alors, ça n'est pas du henné.
Alors autre profession qui se trouve amenée aussi à venir vous consulter suite à la manipulation de produits sont les coiffeurs, les coiffeuses, professeur Gérard Guillet. Et avant de rejoindre Yaoundé, on va faire un détour par le quartier parisien du 10e, hein, quartier de Strasbourg-Saint-Denis, l'une des rues où se succèdent les salons de coiffure justement, cosmétiques, tressage, lissage dédié aux cheveux crépus et frisés. Raphaël Constant a rencontré Diary, qui est en train de poser des rajouts à une jeune femme capverdienne.
Je m'appelle Diary, je suis coiffeuse.
Dans un salon de coiffure afro.
Afro ou ouais, un mix.
Et est-ce que vous faites du défrisage ? Est-ce que vous utilisez des produits pour le défrisage des cheveux crépus ?
Oui, de temps en temps, ça m'arrive. J'utilise Dark & Love, Motion, Olive Oil.
Et c'est des produits qui viennent d'où ?
Alors, aucune idée. Je ne sais pas où ça a été fabriqué, on ne sait rien. Quand on sait que ça lisse les cheveux.
Alors justement, vous pouvez m'expliquer comment vous procédez pour faire un défrisage ?
Je mets le défrisage juste sur la racine. Il faut y mettre une base sur le cuir chevelure pour ne pas l'irriter trop. Parce que quand même, le défrisage, c'est un produit très très fort. Il y a des défrisages avec ou sans ammoniac, donc ça risque d'irriter le cuir chevelure. Donc il faut qu'on mette une base, parfois bord de karité, vaseline, derrière l'oreille, partout un peu sur le cuir chevelure.
Parce qu'en fait, dans ces produits-là, c'est de la soude.
Ouais, c'est ça. De la soupe.
Et justement, c'est quoi les dangers du défrisage ?
Alors, les dangers pour leur santé, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, franchement. En tout cas, je sais que le défrisage n'est pas bon, ça c'est sûr. Parce que déjà, ça ouvre les écailles du cuir chevelure pour pouvoir rentrer dans le cuir chevelure pour que ça puisse être lisse. C'est ce que j'ai appris en fait, à l'école, au Sénégal.
Et on vous a appris à bien manipuler les produits pour ne pas vous brûler ?
Oui. Oui, oui, oui. On nous a appris de mettre des gants avant de faire le défrisage. Temps de pause aussi, parce qu'il y a temps de pause, soit 30, 35 minutes avant de rincer, pour que ça prenne bien. Il y a des gens qui supportent le défrisage, il y a des gens qui ont des cuirs chevelus qui ne le supportent pas du tout. Dès que tu appliques, ça pique.
Et quel autre produit vous utilisez dans votre salon de coiffure?
Produit, là en ce moment on utilise plus les produits naturels. On a su que le défrisage ça peut faire que des dégâts sur nos cheveux. Ça casse les cheveux de mes clientes, ça les abîme, ça les rend secs. Après je ne sais pas quelle maladie ça donne. J'aimerais bien quand même savoir pour encore plus décourager mes clientes à ne pas faire le défrisage. Parce que moi je les décourage. Parce que je vois leurs cheveux avant et après. Sur des chutes de cheveux, j'en vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cheveux secs, après les cheveux poussent, la racine est dure, le bouquet a été défrisé et lisse, et ainsi de suite.
Et vous savez que dans ces produits-là, il y a des perturbateurs endocriniens qui peuvent créer des problèmes et pour vous, la coiffeuse, et pour la cliente.
Je ne savais pas ça, mais côté odeur, je sais que quand on l'applique, oui, parce que l'ammoniac, ça sent fort. Moi, depuis le temps que je dis, j'ai déjà le cancer dans mes poumons parce que j'utilisais tellement des produits comme ça, enfin, j'utilisais tellement de défrisage. Quand tu le respires, tu sais que ce n'est pas respirable.
Et votre patron, il ne vous donne pas des gants et des masques pour vous protéger?
Si, il y a tout dans le salon, il y a tout dans le salon. Mais j'ai la flemme. On a la flemme tout le temps de mettre des masques. On se dit, bon, c'est du vite fait, on l'applique vite fait, tranquille.
Mais quand je regarde là dans votre salon, il n'y a pas d'aération.
D'aération, si. Regardez bien, il y a un trou là-bas, en fond.
Et ça suffit pour pas que vous ayez mal à la tête ou...
Ça suffit, on ouvre la porte parfois, de temps en temps, pour aérer. Il y a le ventilo aussi qui aère tout ça.
Et vous, mademoiselle, pourquoi vous ne voulez pas faire de défrisage?
Parce que ça casse les cheveux.
Et qu'est-ce que vous savez des produits que vous utilisez sur les cheveux crépus?
C'est des produits à base de plantes où je lis ce qu'il y a comme ingrédients, tout ce qui est huiles essentielles. Enfin, oui, c'est surtout. Enfin, il n'y a pas d'énormément de produits. Il faut prendre l'huile de coco, l'huile d'amande, l'huile d'olive. Voilà, c'est la base.
Je sais que une femme enceinte ne doit pas faire de défrisage. J'ai entendu ça. Je pense que peut-être ça rentre dans le sang, qui sait?
Donc votre employeur, il ne vous a jamais expliqué ce que vous utilisiez comme produit,
non,
en fait?
Non, moi, je n'ai pas d'employeur, je suis la patronne.
Et donc la patronne, elle ne se renseigne pas sur ce qu'elle utilise?
Bah la patronne, tu sais, problème de défrisage, on ne se posait jamais de questions, on ne voyait pas de mal, voilà, il faut se défriser les cheveux, point. C'est la société, moi, à mon avis, je pense que c'est la société. Tu dis à la personne de ne pas défriser, elle se fâche. Je sais que mon boulot est dangereux, enfin, c'est risqué, je fais un boulot très très risqué, mais bon, il faut que je travaille, je suis une femme seule, avec un enfant, si tu ne travailles pas, qui va te donner à manger? Tu es obligée, je fais avec, c'est ma santé qui est en jeu, si je ne l'accepte pas, une autre salon va l'accepter, tu as vu la concurrence, elle est rude, après on n'a pas le choix.
Reportage de Raphaël Constant dans le 10e arrondissement de Paris. Toujours avec nous, professeur Gérard Guillet, un problème d'information, on l'a entendu, sur les produits utilisés dans ces salons, problème pour les clientes comme pour celles qui travaillent. Et d'abord cette précision, hein, le défrisage, ça concerne l'écaille du cheveu et pas le cuir chevelu directement.
Oui, absolument. Et on vient d'entendre un reportage qui est excellent, qui dit tout, qui dit d'une part le risque respiratoire pour les personnes. Faut savoir, dans les asthmes professionnels, finalement 8% sont liés au métier de la coiffure et il s'agit de près de 20% quand il s'agit des coiffeuses elles-mêmes. Donc elles doivent se protéger, c'est une évidence. D'autre part, elle explique également que la soude ou les produits basiques dégrade la cuticule des cheveux et c'est vrai qu'en dermatologie, on voit quand même beaucoup de personnes qui viennent parce que les cheveux sont secs, sont cassants ou sont cassés. Chute de cheveux, c'est quand même quelque chose qui est presque banal. Donc je comprends qu'elle essaie de décourager ses clientes. Ensuite, l'effet du produit est à la fois celui de la brûlure parce que c'est un produit trop basique, mais c'est aussi celui des produits eux-mêmes et c'est vrai qu'on a accusé les défrisages d'être à l'origine de fibromovariens et sur le principe pas de défrisage avant la puberté parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc c'est vraiment beaucoup. Là on est loin de la cosmétique, qui la cosmétique c'est le principe de ne pas nuire et de remettre de l'ordre. Là on commence par abîmer en espérant que le résultat sera appréciable. Mais il faut faire la balance entre les risques et les avantages et ça n'est pas toujours évident. Et les coiffeuses le savent.
On comprend de toute façon quand on entend employer pour justement, entre guillemets, se faire belle, professeur Gérard Guillet, le terme de soude, il y a de quoi quand même décourager. La soude, c'est aussi employé pour la plomberie.
Oui, et pour cette raison, il y a deux types de défrisage, mais sur le chevet, il y a le défrisage type permanente avec des produits thiolés, mais là, on risque les allergies. Et puis, il y a le défrisage caustique, celui à la soude, qui est de toute façon quelque chose de très agressif. On recommande bien de ne jamais aller jusqu'aux racines et de toute façon de ne jamais le faire avant la puberté. Mais pour autant, ça c'est pour éviter les risques de perturbations endocriniennes, mais au-delà, c'est vrai qu'à terme, on est menacé un beau jour de perdre ses cheveux ou d'avoir les cheveux cassants, et pour compenser cela, les coiffeuses, les salons de coiffeurs proposeront des masques qui vont nourrir les cheveux, des masques protéinés, des masques hydratants, parce que de toute façon, la cuticule a été abîmée, dont les cheveux deviennent secs, poreux et cassants.
Et aussi pas mal de perruques, hein, soit dit en passant. Alors, on part comme promis pour le Cameroun, où l'on retrouve le docteur Emmanuel Armand Kouotou. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin dermatologue, vénérologue, allergologue à l'hôpital de Yaoundé. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus de l'appareil, parce que votre voix est assez lointaine. On reparle toujours des risques liés aux soins esthétiques avec vous. Justement, pour quel motif les patients viennent vous consulter à l'hôpital de Yaoundé, docteur Emmanuel Armand Kouotou?
Oui, je commencerai déjà par dire merci pour ce reportage qui est bien édifiant. Les motifs de consultation sont multiples. Et vous avez suivi là, parfois c'est les patients qui vont venir consulter après un défrisage. Parce que il y a des bulles qui vont survenir, soit des bulles, soit des cheveux qui sont cassants. On peut aussi avoir des consultations pour des cas d'eczéma de contact, des allergies aux produits utilisés. Ça c'est fréquent.
Défrisage capillaire, une autre question majeure en dermatologie, c'est la dépigmentation. Est-ce que au Cameroun, donc chez vous, le mouvement continue, le phénomène continue? Beaucoup de femmes et même d'hommes hein, viennent consulter suite à des désagréments liés à ces produits de dépigmentation, docteur Kouotou?
Oui, ça c'est notre quotidien. C'est tous les jours qu'il y a des patients qui viennent consulter pour les effets secondaires liés à la dépigmentation volontaire. Ça, c'est très fréquent. C'est même un vrai problème de santé publique.
Justement, docteur Kouotou, je voulais vous faire part de ce message Facebook que nous a adressé une auditrice de Priorité Santé. Elle s'appelle Mariam. Elle est au Sénégal, à Dakar. Et elle se demande, elle nous demande, est-ce qu'il existe de bons produits éclaircissants, c'est-à-dire des produits qui éclairciraient la peau et qui n'auraient pas de conséquences néfastes pour la santé. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Et je ne vais pas passer par deux semaines pour dire qu'il n'y a pas de bons produits éclaircissants.
Donc c'est non, aucun produit ne peut éclaircir la peau sans avoir d'effet secondaire mauvais, risqué pour la santé.
Oui, parce qu'au départ, ni à l'arrivée, on ne connaît ni la concentration des produits dans les cosmétiques utilisés, ni tous les ingrédients qui sont utilisés pour la fabrication de ces produits éclaircissants. Et très souvent, on trouve les concentrations qui sont fausses. Nous avons fait beaucoup de tests dans des cosmétiques utilisés. On a vu que les concentrations affichées par les fabricants n'étaient pas vraies.
On l'a entendu déjà en France, un problème d'information sur certains produits utilisés pour les soins esthétiques. J'imagine que c'est exactement la même chose chez vous. Est-ce que les autorités essaient justement d'y regarder de plus près pour peut-être faire des lois, légiférer sur cette question des produits utilisés pour la peau, pour les cheveux et qui peuvent donc présenter des risques pour la santé?
Nous nous battons, nous les dermatologues au Cameroun, pour y arriver, pour impliquer fortement les autorités sanitaires, les autorités de la santé publique et même les autorités du ministère du commerce pour pouvoir régulariser l'entrée et la commercialisation de ces produits au Cameroun. Vu les conséquences que nous vivons chaque jour, que nous observons chaque jour. Si vous venez au Cameroun, il n'y a pas marché dans les rues de Yaoundé, vous verrez que les panneaux publicitaires pullulent partout, vendant ces produits. Donc il y a un réel problème. Et les autorités devraient s'y imprégner. Nous nous battons pour ça.
Vous battez auprès des autorités, mais il y a aussi des messages que vous voulez faire passer à la population, justement, en matière de prévention pour la dermatologie, docteur Emmanuel Armand Kouotou.
Oui, le message que je vais dire, c'est que quand les dames ça c'est essentiellement aux dames quand elles vont faire les soins dans les salons de soins, les salons esthétiques. Lorsqu'on leur propose les compositions de lait, qu'elles refusent, qu'elles demandent à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces laits, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver en train de faire la dépigmentation volontaire de façon involontaire, c'est-à-dire que de façon inconsciente, elles veulent se faire belles, elles vont dans les salons de coiffure, dans les salons d'esthétique, on leur propose des compositions de lait, sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et un autre conseil, c'est de dire aux dames, lorsque vous avez besoin de conseils, adressez-vous aux professionnels de la santé, qui ont quand même un minimum d'informations pour vous aider.
Merci beaucoup, docteur Emmanuel Armand-Coutou. Je rappelle que vous êtes médecin dermatologue à l'hôpital de Yaoundé. Cette question de l'éclaircissement de la peau, hein, ce sera notre conclusion, professeur Gérard Guillet. C'est une pratique, on l'a entendu, qui peut avoir des conséquences graves. Précisément, quel type de conséquences et comment expliquer justement la gravité des effets secondaires?
Le produit le plus classiquement utilisé reste la cortisone locale avec un effet éclaircissant, mais les effets de couperose, de pigmentation, d'atrophie, de pilosité qui apparaissent. Donc c'est l'effet éclaircissant obtenu avec le produit qui est le plus largement utilisé. Ensuite, il y a d'autres produits comme l'hydroquinone qui posent des problèmes de surpigmentation et d'effets toxiques éventuels, qui a été d'ailleurs retiré des cosmétiques en France. Donc, finalement, c'est un effet d'amélioration tout à fait transitoire avec des produits qui, par définition, restent des toxiques.
Il y a eu plusieurs campagnes, professeur Guillet, pour essayer de dissuader les publics ciblés, également des produits interdits. Dernière interdiction en date en novembre 2011, des produits injectables. Ça veut dire que des personnes se faisaient injecter des produits sous la peau pour changer le teint, pour changer cette pigmentation?
Ah, là, je n'en sais rien. Vraiment, je ne suis pas au courant, mais sur le principe, il faut retenir une chose. La cosmétique, tant que ça n'est qu'appliquer des couleurs ou masquer les choses, il n'y a aucun risque. Mais à partir du moment où on veut modifier les choses de façon définitive, bien sûr qu'il faut s'attendre à avoir des effets secondaires plus ou moins graves. Il faut savoir les évaluer au préalable.
Et justement, pour conclure, message de prévention, on a compris l'étendue des pratiques, l'étendue, la diversité des soins. S'il fallait dire aux auditeurs, aux auditrices, ce message justement pour éviter ces désagréments, qu'est-ce que vous voudriez faire passer justement comme message, professeur Guillet?
Tous les actes qui sont invasifs, y compris les faux ongles qui commencent par un meulage des ongles, tout ce qui va fragiliser la peau est forcément à risque de laisser passer à travers cette fragilité, des risques d'allergie, des risques de toxicité, des risques de cancer, pourquoi pas, il faut savoir y réfléchir et considérer qu'à partir du moment où on a décidé d'en protéger les enfants ou les personnes prépubères, et bien pour les personnes postpubères, bien sûr qu'il y a un risque. Donc certes, il faut souffrir pour être belle, mais il faut voir jusqu'à quel degré peut aller la souffrance.
Merci beaucoup, donc bien choisir son tatoueur, son coiffeur, sa manucure. Merci professeur Gérard Guillet, et consulter un dermatologue en cas de problème. Merci d'avoir été en ligne avec nous de Bordeaux, en direct des studios de France Bleu Gironde, que l'on remercie encore. Professeur Gérard Guillet, vous êtes l'auteur de L'âme à fleur de peau, les pouvoirs de la peau, publié chez Albin Michel, et de Dermatologie guide pratique chez Heure de France. Merci infiniment. Page nutrition dans Priorité Santé, c'est avec vous Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est important, mais même indispensable, de bien s'hydrater?
Alors d'abord, il ne faut pas oublier que l'eau représente 60% de la composition de notre corps, de notre poids corporel, donc c'est vraiment indispensable pour notre organisme. Et bien s'hydrater, c'est central pour beaucoup, beaucoup de processus. L'eau joue différents rôles très importants. Elle permet d'abord de nombreuses réactions chimiques dans notre corps, elle participe au maintien de la température, ce qu'on oublie souvent, elle apporte à notre organisme de nombreux minéraux quand on va boire de l'eau, elle va permettre le transport de nombreuses substances indispensables au fonctionnement de nos organes à travers le sang et la lymphe, et enfin elle est nécessaire à l'évacuation des urines, et aussi elle va jouer un rôle pour réduire ou éviter la constipation.
Alors quels sont les risques en cas de déshydratation?
Alors, d'abord, il faut rappeler que notre corps fabrique une petite quantité d'eau. Donc la grande majorité de l'eau doit être apportée. Donc ça c'est quand même très très important, parce qu'on va récupérer une partie d'eau par l'alimentation, mais après on va en perdre une grande partie par la transpiration, par les urines et aussi par la respiration. Il faut aujourd'hui à peu près, on estime en moyenne qu'il faut recompenser 1,5 litre d'eau par jour. Donc c'est cette eau qu'il va falloir reprendre par forme de boisson. Il faut aussi rappeler, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste tout le temps, que la seule boisson qui est indispensable, c'est l'eau justement, parce qu'aujourd'hui on a une disponibilité de beaucoup de boissons et c'est vraiment celle-là qui est indispensable. Et donc une fois qu'on a, on sait ça, pourquoi il faut reprendre ces 1,5 litre d'eau par jour, c'est parce qu'autrement on va avoir un risque de déshydratation qui va amener une fatigue excessive, qui peut amener des complications d'écran, mais qui peut aussi amener des problèmes de calcul. Et chez des personnes plus fragiles, notamment chez les personnes âgées, c'est pour ça qu'on fait très attention dans les périodes de canicule, on peut arriver même en cas très sévère à arriver à des comas.
Alors, pourquoi est-ce qu'il existe un risque de déshydratation particulier en cas de diarrhée ?
Alors, déjà, la diarrhée, c'est du coup, quand on l'a définie, j'allais dire, par plus de 3 selles, d'aller 3 fois à la selle par jour, mais aussi avec des selles liquides. Et en fait, c'est cette perte par les selles liquides d'eau et de minéraux qui va amener à la déshydratation. Alors, il y a des populations plus fragiles, ça va être les enfants notamment, sur lesquels il va falloir être très vigilant, comme sur les personnes pour éviter cette déshydratation. Donc, ce qui va être très très important, c'est de bien surveiller pour éviter et de bien ramener à chaque fois les quantités d'eau nécessaires pour éviter les conséquences dramatiques de la déshydratation.
Alors, quel conseil justement pour éviter cette déshydratation en cas de diarrhée ?
Alors, d'abord, ça va se passer au niveau de l'alimentation déjà, éviter les aliments qui vont favoriser cette déshydratation. Ça va être les aliments gras, ça va être les produits laitiers, ça va être les fruits, les jus de fruits, mais aussi les fruits, sauf la banane. Ça, il faut bien rappeler à chaque fois que la banane ne crée pas ces déséquilibres-là, et privilégier du coup les féculents, comme le riz blanc par exemple. Ensuite, il va falloir recompenser ce besoin d'eau, soit par de l'eau, soit par des bouillons. Ça peut être des bouillons de légumes ou des bouillons de viande. Il va falloir éviter absolument les boissons qui favorisent aussi la déshydratation. Ça va être le cas de l'alcool ou du thé ou du café. Et en cas de diarrhée grave, vraiment grave, où il y a des pertes d'eau très importantes et que la réhydratation se fait mal, on peut chez soi très facilement préparer ce qu'on appelle des boissons de réhydratation, qu'on peut préparer extrêmement facilement en mettant 1 litre d'eau stérile. Ça, c'est très important. Il faut que l'eau soit propre, faire attention à la qualité de l'eau, 6 cuillères à café de sucre blanc et 1 cuillère à café de sel. Et cette boisson-là va permettre à la fois de ramener des minéraux, de ramener un peu d'énergie et de compenser ces pertes hydriques et de bien arriver à réabsorber l'eau. Parce que le problème, il est là aussi. Il faut absolument que cette eau qui soit bue soit réabsorbée pour compenser la déshydratation.
Quand vous nous dites eau stérile, Stéphane Besançon, ça veut dire que cette eau, on peut la faire bouillir avant de la mettre en bouteille ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent la déshydratation vient sur un terrain déjà d'infection ou de diarrhée qui va être provoqué par quelque chose, donc il ne faut surtout pas ramener une eau qui risque d'être polluée par exemple, qui risque d'être sale et qui va ramener de la maladie, j'allais dire, pratiquement en plus. Donc c'est vraiment important d'avoir une eau stérile. Alors c'est soit une eau minée, soit une eau en bouteille, soit effectivement on peut faire bouillir l'eau, la laisser refroidir, la mettre dans une bouteille et après ajouter le sel et le sucre.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Sétou Samaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Lundi, dans Priorité Santé, nous retrouverons nos 2 chroniqueurs, Jean-Marc Seine, Stéphane Besançon, pour une émission spéciale sport et nutrition. On se retrouve lundi.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Les ondes